La semaine dernière, je vous partageais juste un verset du matin de la résurrection, Luc 24, 7, et il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et cette parole était donnée aux femmes le jour de la résurrection par l'ange. Ce qui corroborait ce que Jésus allait dire dans Luc 18, 31, 33. Luc 18, 31, 33. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après avoir battu de verges, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Jésus est sur le chemin d'aller au calvaire. Et il faut qu'il se rende à Jérusalem. Et ce que nous allons partager ici, c'est le moment où il va arriver à Jérusalem. Et je vous propose de prendre Luc 19, 29, 38 pour le partage de ce matin. S'arrêtons sur le fameux événement qu'on appelle les rameaux. Je sais, c'est dimanche prochain, mais dimanche prochain, je ne suis pas là. Donc, nous allons partager Luc 19, 29, 38. Après avoir parlé ainsi, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?», vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Jusque-là, la lecture. Et je vous invite à la prière. Et encore une fois, nous voulons nous mettre à genoux. Nous voulons nous mettre assis près de toi pour écouter ta parole. Seigneur, qu'elle soit profitable à nos âmes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être encouragés, d'entendre ta voix, d'être près de toi. Tout ce qui nous entoure est tellement secouant, tellement embêtant, tellement dérangeant. Seigneur, prends-nous dans ta main et parle-nous. Nous avons besoin de t'entendre. Amen. Le récit de l'entrée de Jésus est repris par les quatre évangiles. Et je lui ferai régulièrement référence. On va pas lire les quatre passages, parce que ce serait peut-être un peu trop long. Je vous invite, allez-vous les lire à la maison, tous les quatre. Ici, Jésus vient de quitter Jéricho, où il a guéri plusieurs personnes, plusieurs aveugles, dont Bartimée, et où il a aussi rencontré Zachée. Et il est de passage à Béthanie, où il a ressuscité Lazare. Et c'est l'évangéliste Jean qui nous rapporte ce récit. Et il traîne avec lui non seulement ses disciples, mais aussi toute une foule. Il était très connu. Voilà, le décor est planté, on est là, Jésus est là, et toute une file qui est derrière. Il est évident que quand un roi ou un dignitaire arrive dans un pays, il est généralement accueilli à grande pompe, parce que, justement, il est important. Il est connu ou reconnu et il a accompli quelque chose de grand. Et vous avez sans doute vu l'arrivée de Joe Biden. Il a débarqué en avion immense, avec toute sa suite. Imaginez qu'il soit arrivé discrètement avec Ryanair à Charleroi. Ça ne l'aurait pas vraiment fait. Pas de pub, s'il vous plaît. D'autre part, on ne peut pas non plus imaginer le roi Philippe arriver à trottinette ou à vélo. Mais non, on ne peut pas l'imaginer. Pourtant, pourquoi pas? Bon, on est loin du protocole. De même, on ne peut pas non plus imaginer une photo de Napoléon sans son cheval. Vous connaissez l'histoire, hein, la couleur du cheval blanc de Napoléon. Ni non plus Jules César arrivé à pied, alors qu'il est sur son char, équipé avec ses chevaux. Tous les grands de ce monde ont eu une voiture adaptée. Vous connaissez, hein, la papa mobile. Hein. Pourtant, en Israël, dans notre récit, bien que des dirigeants romains se baladent à cheval, il est un roi qui se promène sur un âne, sur un anneau. Mais quelques années auparavant, en l'an 63 avant notre ère, le général Pompée entra dans Jérusalem pour y remettre de l'ordre, avec toute son armée, mais avant cela, il a fait un petit arrêt à Jéricho pour étudier la stratégie. En effet, les guerres de pouvoir à l'époque, le politique, le religieux, hein, coupaient les juifs en deux camps, moi je suis pour l'un, moi je suis pour l'autre, et il n'est certes pas lui monté sur un âne non plus, bien qu'il ait emprunté le même chemin. Que Jésus, sa motivation, hélas, lui, était bien différente. C'était pas pour sauver le peuple juif, c'était pour un peu plus le secouer. Le chemin, pourtant, qu'a suivi Jésus, serait-il l'itinéraire des envahisseurs ou des libérateurs? Souvenons-nous que, quand même, la première ville rencontrée par le peuple d'Israël, quand il est rentré, est quand même Jéricho. Ils sont rentrés par là. Alors, vainqueur, envahisseur, libérateur. Cette route est quand même bien connue des Juifs qui connaissaient leur écrit et leur histoire. Celui que l'on nomme le fils de David emprunte donc la route des conquérants et des rois. Généralement, quand un roi rentre dans une ville, c'est après une grande victoire. Lorsque la capitale d'un pays est prise, c'est qu'il y a eu capitulation. On se souvient quand même, peut-être les plus âgés se souviennent des entrées de la libération à Bruxelles, de cette foule qui criait « Libération, libération de la Belgique ». On est loin de ça. Suivant, je dirais, le côté où on se trouve, on agite le drapeau blanc, signe de reddition, ou les couleurs du pays. Mais dans notre récit, nous voyons une foule en liesse devant l'entrée d'un personnage monté sur le petit d'une ânesse. Et à défaut de drapeau, ce sont des manteaux, des branches, qui sont agités, qui sont étendus par terre. Jésus est reconnu comme roi et comme libérateur. À ce moment-là, ils n'ont pas de doute. Il est le roi, il est le libérateur. Les évangiles nous rapportent plusieurs types de personnes, de personnages qui composent cette foule. Et je vais vous citer quelques-uns. Nous trouvons d'abord les disciples de Jésus, commun à notre passage et à chacun des évangiles. C'est évident que les disciples de Jésus le suivent quand même, c'est un minimum. Il y a ceux qui suivent Jésus aussi depuis pas mal de temps. Notre texte de Luc, dans verset 29, précise que Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. N'oublions pas qu'il vient de Jéricho et qu'il a guéri quelques personnes, dont Bartimée, qui dit qu'il suivit Jésus sur le chemin. À mon avis, il n'était pas tout seul, parce qu'il voulait voir la suite. Luc cite aussi la multitude des disciples. Et pour ce qui est de l'évangile de Jean, voilà ce qu'il nous est dit. Une grande multitude de juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Donc on a appris qu'il était là. Ils y vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Ils ne viennent pas pour voir Jésus, mais ils viennent voir est-ce que lui, il est bien ressuscité. Mais il y a pas mal de monde qui arrive. Et puis au verset 12... Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ». Là aussi, pareil, une grande foule qui venait à la fête de Pâques, énormément de monde qui monte à Jérusalem. Et enfin, les derniers, les principaux sacrificateurs, les pharisiens et les scribes qui sont là, autour de Jésus, un peu comme des chacals, un peu comme des vautours. Qui veulent le détruire. Nous trouvons donc les 12, une multitude de disciples, des gens qui ont bénéficié d'un miracle, ceux qui ont entendu parler de Jésus et des choses extraordinaires qu'il a faites, des curieux, des gens pleins de gens se rencontrent à Jérusalem pour la Pâque juive. Jésus est suivi par une énorme foule, mais totalement disparate. Pas que des gens qui sont intéressés par lui, intéressés pour le détruire, intéressés pour le suivre. Mais apparemment, Toute cette foule connaît la prophétie de Zacharie 9:9. Et je vous la cite. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. » Prophétie. Matthieu reprendra justement cette prophétie. Matthieu, verset 5. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un âneau, le petit d'une ânesse. » Tous les Juifs connaissent ça. Donc on sait que le Messie sera monté sur une ânesse. Ça ne choque donc personne que Jésus soit sur un âne. Tous, apparemment, sont convaincus que c'est bien le Messie attendu. Et même les propriétaires de l'âneau sont au courant et ne créent aucun problème. Ils entendent que Jésus en a besoin, donc pas de souci. Tout ce que Jésus a fait ici pendant 3 ans est écrit et réuni ici. Tous croient que c'est le roi qui vient au nom du Seigneur, que c'est le fils de David qui va délivrer le peuple. Tous le pensent. Le salut devient national ou communautaire, si on veut, plutôt que personnel. Et pour certains de cette foule, Jésus entre à Jérusalem dans l'espoir, surtout, de les délivrer de l'envahisseur. Ce sont ceux qui crient « Hosanna ! » Est-ce que vous savez ce que ça veut dire « Hosanna » ? Parce qu'on dit « Hosanna » ou qu'on chante, on a un chant. Veut dire « Sauve maintenant, sauve-nous, sauve donc, donne-nous le salut. » Il y a une demande « Sauve-nous. » Matthieu 21:9, que je vous lis. Ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus, criaient « Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Ils demandent d'être sauvés. Libère-nous. Par contre, si on relit le même événement dans le texte que nous avons lu, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu. À louer Dieu. À haute voix, pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux célestes. » Pas de Hosanna. Nous ne retrouvons pas ce fameux Hosanna dans la bouche de ceux que Luc nomme la multitude des disciples. Ils sont saisis de joie et ils louent Dieu au lieu de demander d'être sauvés. Ils n'ont pas besoin d'être sauvés, ils savent qu'ils le sont. Face au ministère de Jésus, nous trouvons donc 2 réactions différentes. La louange, comme la multitude des disciples. La demande, comme le reste de la foule. Mais aussi l'incrédulité. Dans Matthieu 21, 14, 15, voilà, il est marqué. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et les guérit. Mais les principaux sacrificateurs, les fameux vautours, et les scribes furent indignés. Indignés à la vue des choses merveilleuses qu'ils faisaient. Ils sont indignés. Un peu plus loin, il y a la peur aussi. Dans Jean 12, 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Donc, les chefs croient en Jésus. Mais à cause des pharisiens, les vautours, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Ils croient en Jésus, mais on a peur. On ne se montre pas, on ne se mouille pas. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Dans ces 4 réactions, ou réactions, une seule est à la gloire de Dieu et les autres à la gloire de l'homme. C'est ce qui fera la différence dans la foule qui criera plus tard. Crucifie. Crucifie. Aujourd'hui, qui sommes-nous ? Est-ce que nous sommes plus dans la louange que dans la demande ? Ou est-ce que nous faisons partie de ceux qui suivent Jésus comme ça, en curieux ? Ou parce qu'on a vu un miracle et qu'on essaie de voir quand même si c'est bien lui ? N'oublions pas quand même qu'il est marqué « Demandez, vous recevrez, d'accord ?» Mais il est aussi marqué, et ça c'est Marie qui le dit, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Faites tout ce qu'il vous dira. Qui de nous aurait été chercher l'arme ? Qui de nous aurait été chercher ça sans rechigner, sans murmurer ? Effectuer ce travail ingrat de ramener une mule et son rejeton simplement parce que Jésus l'a dit. C'est sûr qu'il nous demande parfois des choses faciles à faire et parfois que nous éludons parce que ça ne répond pas à ce que nous on attend. Aller chercher un âne. Les Juifs attendaient quelqu'un qui allait débarrasser de l'envahisseur romain, un chef. Pourtant, la prophétie de Zacharie le disait juste et victorieux, même s'il n'avait qu'une monture d'un âne. Il était juste et victorieux. C'était un vainqueur. Ils avaient certes l'espoir que l'événement de cette entrée, un peu ridicule peut-être, allait transformer cette guerre en une guerre éclair, un peu comme un cheval de Troie, pour tromper l'ennemi. Mais c'était sans doute oublier la puissance de Dieu et sa gloire, mais qui ne passe que par les choses simples. Souvenons-nous que Jésus n'est pas né dans un palais, il est né dans une crèche, dans une mangeoire à vaches. Dieu allait-il se confondre en grand triomphe pour démesurer comme un roi humain ? Non, Jésus vient simplement sur le dos d'un âne. Il n'est pas revêtu d'une armure de guerrier. Il se rendra à Jérusalem en habit de douceur. Rappelons-nous que Matthieu était un des disciples de Jésus et que ses écrits ont d'autant plus de crédibilité qu'il a vécu avec lui au quotidien. Alors écoutons ce qu'il dit. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouvez le repos de vos âmes. » Il n'est pas venu en conquérant avec une armée, il est venu en habit de douceur. Et c'est l'évangéliste Luc qui nous fera retourner aussi à la naissance de Jésus, en faisant le parallèle. Si je relis le texte que nous avons lu, dans Luc 11, 29, il disait « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux célestes. » Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et si on relit l'évangile de Luc au début, chapitre 2, verset 13-14, « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Nous retrouvons la même chose, l'amour, la paix. Pour la multitude des disciples, la louange éclate à Dieu seul, parce que comme les anges, le véritable disciple sait qu'il est sauvé. Il n'a pas besoin de demander encore « Hosanna, sauve-nous ». Jésus, ce roi humble serviteur, est apparu comme un simple homme. Un simple homme, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, nous dira l'Épître aux Éphésiens. Or, à la joyeuse entrée prévue par le protocole royal, il optera juste pour la rudesse du dos d'un âne. Et aux marques de reconnaissance des grandes semontes, il préféra le dénuement de la croix, partager le sort avec des condamnés pour nous sauver. Mais cette entrée à Jérusalem est un peu quand même une histoire d'âne, parce que toutes les quatre évangiles le mentionnent avec plus ou moins de détails et insistent, qui évidemment corrobore la prophétie de Zacharie. Mais comme vous savez, ou vous ne savez pas, l'âne est le compagnon de l'homme depuis les temps les plus anciens. Et à l'échelle de l'histoire, l'âne demeure le second animal domestiqué mis au service du transport après le bœuf. Et on ne peut pas dénigrer non plus son importance dans la Bible, parce qu'on en parle pas mal, avec Abraham, Jacob, Ésaü, les frères de Joseph, Moïse et sa famille, sans oublier la fuite en Égypte de Joseph et Marie. Nous ne pouvons pas non plus faire fi de l'histoire de l'ânesse de Balaam, dans Nombre 22, qui empêche le prophète de maudire le peuple, et non seulement en lui barrant la route, mais en lui parlant. Si Dieu a fait parler un âne, vous connaissez la suite. L'âne est un animal ayant du caractère, tant il est dit de lui qu'on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. C'est une monture commune qui peut traverser les déserts sans fléchir, certes pas brillant en beauté, mais combien robuste. Mais quel honneur pour cet ânon sur lequel personne ne s'est jamais assis, que le roi des rois puisse compter sur lui pour le porter à travers cette foule. Mais l'arbre ne doit pas nous cacher la forêt, ni l'âne nous cacher celui qu'il porte. Il est arrivé en serviteur humain, mais en sauveur divin. Il est humble et doux, d'accord, mais pour les hommes qui croient en lui. Pour le reste, il vient en juge. En juge, et l'événement qui suit, son entrée à Jérusalem, va le prouver et résume tout. Juste quand Jésus est rentré à Jérusalem, la première chose qu'il a fait, aller au temple. Il entre dans le temple et qu'est-ce qu'il fait? Il met son dessus tout. Il secoue tout, il renverse les tables et chasse tous ceux qui sont là, tous les trafiquants. Jésus n'est pas doux pour les rebelles qui ont l'apparence de la piété. Non, Jésus n'est pas tendre avec ça. Jésus est humain mais aussi divin. Et quand il envoie ses disciples chercher l'ennon, il sait qu'il est là. Le texte nous dit « Ceux qui avaient été envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. » Comme Jésus leur avait dit. Les choses comme Jésus leur avait dit. Combien parfois nous sommes parfois incrédules en pensant que le Seigneur ne prévoit pas les circonstances de notre vie. Nous avons le même cas de figure quand il envoie ses disciples pour préparer la chambre haute. Nous lirons tout à l'heure. Ils trouveront les choses comme Jésus l'a dit. De plus, ça va un tout petit peu plus loin, Jésus prévoit même l'imprévisible. Vous avez peut-être remarqué comment commence le verset 32 de Luc 19 que nous avons lu. Il est aussi dans les autres évangiles. « Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. » Si quelqu'un, on ne sait jamais, quelqu'un qui passe par là, si on vous demande pourquoi, Jésus anticipe sur les événements. Il donne une réponse à une question qui pourrait entraver les disciples. Si on vous demande pourquoi, le Seigneur en a besoin. Ce qui nous montre sa divinité, au-delà de son humanité. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce jour de fête des rameaux? Si les rameaux, il est parlé du dimanche, ce n'est qu'en référence à l'évangile de Jean, où il est écrit que certains de ceux qui étaient à Jérusalem étant des feuilles de palmier, les autres ont parlé de branches d'arbres. Toutes les représentations artistiques de cette entrée triomphale à Jérusalem montrent un anon. Si vous avez déjà vu des peintures, l'anon est presque aussi grand que Jésus. Et ça m'a touché parce que je me dis, mais c'est pas possible. L'anon ne peut pas être aussi grand que Jésus. Ce n'est que la monture qui a transporté Jésus. Et si l'élément qui confirme bien la prophétie, il n'en est pas l'accomplissement. Pour terminer, interrogeons-nous. Nous sommes tous différents. Mais dans la foule en liesse, des disciples en louange ou des gardiens de la loi, de quel groupe aurais-je fait partie? Dans mes prières, suis-je plus dans la demande que dans la louange? De la crèche à la croix, Jésus s'est montré le serviteur humble. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Où est-ce que je me situe? Suis-je prêt à tout faire, tout ce qu'il me dira, même si je n'ai l'impression que d'aller chercher un âne? Suis-je bien conscient que si Jésus me donne une mission, je trouverai tout comme il l'a dit, et même l'imprévu est prévu? Et devant ma gloire ou la gloire de Dieu, quelle est ma priorité? Même si je me crois incapable de quoi que ce soit, sinon simplement peut-être de faire l'âne, et que je n'ai pas encore rien porté, n'oublions pas que Jésus a donné la réponse à ses disciples. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de nous. Il veut que nous soyons participants à sa gloire. Même si on croit qu'on n'est rien, le Seigneur en a besoin. L'annonce a porté Jésus au cœur de la ville. Il n'a été que le véhicule de celui qui, selon l'Évangile, est la lumière. Même si nous sommes considérés comme trop bêtes, n'est-il pas génial, tant que nous avons encore la force et le temps, d'être les porteurs de lumière du Christ au cœur des hommes. N'oublions pas, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de vous. Amen. Seigneur mon Dieu, nous ne sommes peut-être rien. Mais toi, tu veux que nous soyons tout pour toi. Tu nous veux avec toi. Merci parce que tu as besoin de nous. Tu as besoin de notre petitesse. Mais il faut la donner. Si nous voulons tout remettre entre tes mains, un peu comme les disciples qui disaient, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Seigneur, que nous puissions être à tes côtés, parce que tu as besoin de nous. Seigneur mon Dieu, qu'à toi revienne toute la gloire, que ce soit toi qu'on voit en premier, dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen.